Nous abordons maintenant un mystère tout aussi redoutable que le mystère de l'incarnation, donc le mystère de la rédemption. De l'Église catholique, c'est à partir du numéro principalement 595. Vous voyez par exemple, simplement regardez les titres, numéro 598. Donc la vie du Christ, ce qu'on appelle la passion du Christ, est mise en relation avec tous les pécheurs, le mystère du péché. La rédemption est un mystère qui concerne le salut de l'homme. La rédemption concerne une situation de péché dont nous avions absolument besoin d'être relevés, sauvés. C'est le mystère du péché. Alors voyez numéro 599, la mort rédemptrice du Christ dans le dessein divin de salut. Puis numéro 601, mort pour nos péchés, selon les Écritures. Dieu l'a fait pécher pour nous. Et au numéro 602, justement, à la cinquième ligne, les péchés des hommes, consécutifs aux péchés originels, sont sanctionnés par la mort, en envoyant son propre fils dans la condition d'esclave, celle d'une humanité déchue et vouée à la mort à cause du péché. Dieu l'a fait pécher pour nous, etc. Comment comprendre ces fameuses expressions? On va essayer de réfléchir à tout ça. Mais oui, c'est en lien avec le péché originel, commis, conséquence consécutif au péché originel, le péché commis à l'origine de l'histoire. Oui, numéro 606, le grand titre, hein, le Christ est offert lui-même à son Père pour nos péchés. Numéro 608, l'agneau qui enlève le péché du monde. Alors tous ces titres, tous ces sous-titres sont extrêmement importants. On va essayer simplement, dans une heure, un peu plus d'une heure, de donner quelques clés pour que vous puissiez aussi mieux rendre compte vous-même dans votre effort catéchétique, dans la transmission de la foi qui vous est confiée de ce mystère. Alors, la première chose à faire, c'est de faire un petit rappel au sujet du péché originel. Il en est question longuement dans la première partie, avant la Christologie. Numéro 385 et suivant. Vous voyez le titre, numéro 388, le titre, le péché originel, une vérité essentielle de la foi. Et puis au numéro 396, le titre principal, c'est le péché originel, le premier péché de l'homme, etc. 402, conséquences du péché d'Adam pour l'humanité. Bon. Et je vous signale que quand vous étudiez la Christologie, donc la sotériologie plutôt, le mystère du salut, eh bien vous êtes renvoyé aussi à ces paragraphes sur le péché originel. 602, vous avez en marge un petit chiffre, le chiffre 400, je pense que vous le voyez, hein, juste à côté de consécutif au péché originel. Le 400 vous renvoie justement à la section du catéchisme où il est question du péché originel. Par contre, on vous renvoie au numéro 400, mais au numéro 400, on ne vous donne pas la référence du numéro 602. Ah si, 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 elle y est. Elle y est. Très bien. Et au numéro 605, vous avez aussi un renvoi au numéro 402, à tout ce traité du péché originel. Donc c'est très très important de pouvoir étudier les deux, faire un petit rappel sur le péché originel. Non, c'est pas possible. Alors je vous ai laissé, je vous ai mis le texte sur une feuille, le texte de Saint Paul qui est fondamental pour cette vérité de foi. C'est sur ce texte de Paul que repose toute la doctrine catholique sur le péché originel, chapitre 5, versets 10 à 21. Ce texte-là est écrit pendant que Paul était à Corinthe, pendant l'hiver 557-58. On peut dater il y a quelques mois après la composition de la lettre aux Romains, 57-58. C'est dans ce texte-là que nous trouvons exposée la pensée de Saint Paul au sujet du péché originel. Nous sommes 27 ans après la mort et la résurrection du Seigneur, très peu de temps après, vous voyez. Et dans tout son enseignement, et en particulier dans cette lettre, Saint Paul explicite simplement, il développe l'essentiel, bonne nouvelle de l'Évangile, à savoir que tous les hommes sont appelés au salut, à la rédemption réalisée par le Christ. Salut qui suppose la justification, le fameux mot, la justification par la foi. À savoir, la justice de Dieu. Et pour souligner la place principale du Christ, qui est le principe de notre justification, et en ce sens-là, le premier homme, à la tête d'une multitude de frères, Saint Paul évoque par contraste cet autre premier homme au principe de la faute cette fois, et qu'il appelle Adam. Mais le texte est malheureusement très difficile. Voilà pourquoi, de même que, alors voyez, prenez à partir du verset 12, voilà pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort a passé en tous les hommes du fait que tous ont péché, car jusqu'à la loi, alors là voyez Saint Paul abandonne sa phrase, jusqu'à la loi il y avait du péché dans le monde, et nous allons voir ça. Alors c'est cette première petite phrase qui donne lieu à tant de difficultés. non seulement deux petits mots, mais en fait trois lettres. Quand on voit dans les manuscrits, c'est trois lettres. Epho, épi, o. Hein, qui, c'est écrit en un seul mot parce que ce sont deux mots contractés. Epi, o.
C'est quel mot en français?
Je vais vous dire. Hein? Et c'est ce petit mot, Epho, Nepi-O, mis en relation avec le péché, et qui a fait couler des tonnes et des tonnes de livres depuis 20 siècles. Epho, ce qui revient à dire en grec, Epi-O, donc, comme ça. Et c'est le petit mot épi qui va donner lieu à tant de difficultés. Comment traduire ce mot de épi? Au point de vue de la grammaire, nous avons épi avec un datif. Ce que certains exégètes ont oublié. Épi plus un datif signifie sûr. Avec une idée de repos, d'appui, donc d'attache, donc de dépendance. À ce petit mot, à cette petite préposition. D'où aussi l'idée de condition. Alors la Vulgate, Saint Jérôme, a traduit in quo. In quo. Alors nous avons diverses traductions. Par les auteurs modernes, par les traducteurs de nos Bibles. Le père Cerfaut, par exemple, qui a beaucoup étudié saint Paul, traduit: La mort a atteint tous les hommes à cause de celui par qui tous ont péché. La mort a atteint tous les hommes à cause de celui par qui tous ont péché. Mais Lyonnais, Stanislas Lyonnais, qui est un grand spécialiste de Saint-Paul également, est traduit, et c'est à cette traduction que nous nous rangeons actuellement, étant rempli la condition que. La mort atteint tous les hommes, étant remplie la condition que tous ont péché. C'est justement la difficulté de cette interprétation. La BJ, vous trouverez dans vos Bibles, la BJ, la mort a atteint tous les hommes du fait que tous ont péché. mort a atteint tous les hommes du fait que tous ont péché. Et la Tobe traduit, la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. C'est la traduction la plus simple, la plus facile. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Épi-ô, sûr. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut traduire par ce que. Pourquoi? Parce que le sûr peut être traduit en raison de quoi? Mais qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire que tous ont été soumis à la mort tous ont péché. Voilà les deux mots qu'il faut relier, la mort et le péché. Or, il est certain que la raison, la condition de la mort, c'est que tous ont péché. La condition de la mort, c'est que tous ont péché.
La première, c'était à cause de c'est lui. C'est lui, c'est une personne. Mais après, c'est tous, c'est pluriel, tous les hommes.
Voilà, c'est ce qu'écrit Saint Paul. C'est ce qu'écrit Saint Paul. Voilà pourquoi, de même que par un seul homme et qu'ainsi la mort a passé en tous les hommes, la mort a passé en tous les hommes du fait que tous ont péché. Quand on raisonne, quand on se rend bien compte de ce qu'on veut dire, c'est que tous les hommes sont morts, la mort est passée en tous les hommes sont morts, et la raison, la condition de la mort, c'est que tous ont péché. Ce qu'il faut souligner avant tout, c'est que le péché, c'est la condition de la mort. La condition de la mort, c'est que tous ont péché. Le péché est à l'origine de la mort. C'est ce que Saint Paul veut développer. Donc le premier mot qui donne lieu à difficulté, c'est « epho ». Disons, le péché, tous ont péché. La mort est entrée dans le monde parce que tous ont péché. Le péché, c'est la condition de la mort. Et le deuxième mot qui donne lieu à difficulté, c'est le mot hémarton, péché. Qu'est-ce qu'il veut dire, tous ont péché? Est-ce que ça signifie que tous les hommes ont péché, ont commis un péché personnel? Dans ce cas-là, on ne comprendrait pas qu'on puisse baptiser un petit enfant. Un petit enfant n'a pas fait de péché personnel. Et nous allons le dire, enfin, du temps de Saint Paul, il est probable que la pratique existait déjà de baptiser des petits enfants, qui n'ont pas l'âge de raison, par conséquent, qui n'ont pas péché personnellement. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Si tous les hommes ont péché, de quelle façon ont-ils péché? C'est là que les exégètes font remarquer que le mot « hémarton » qu'utilise saint Paul, « ils ont péché », est traduit dans la Septante, que saint Paul connaissait et utilisait, de deux façons possibles dans certains textes. Dans un cas, « hémarton » traduit le mot « rakra »,
qui signifie « péché », un acte, l'acte de péché.
Et dans d'autres cas, étant donné le contexte, on voit que « hémarton » signifie non pas l'acte de péché, mais l'état de péché, « achat ». c'est vrai que le péché peut prendre ces deux sens. Le péché peut être envisagé comme l'acte de péché, ou bien comme un état de péché qui est le produit de l'acte de péché. Nous avons par exemple dans le Lévitique, au chapitre 4, verset 3, ce texte assez important, le Seigneur parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël, dis-leur, si quelqu'un pêche par inadvertance contre l'un quelconque des commandements du Seigneur et commet l'une de ses actions défendues, si c'est le prêtre consacré par l'onction qui pêche et qui rend ainsi le peuple coupable, etc. Nous avons l'acte de péché commis par le prêtre, consacré par l'onction, et il rend le peuple coupable. Or, il est manifeste que le peuple, dans son universalité de peuple, n'a pas commis un péché. Il s'agit donc d'une culpabilité qui est un état de péché. Le peuple est dans un état de péché, tandis que le prêtre a commis un acte de péché. Vous avez d'autres textes aussi, vous pourrez voir. Vous voyez qu'il est possible de voir dans le mot de saint Paul que tous ont péché, non pas ce sens que tous ont commis un acte de péché, mais que tous sont dans un état de péché, dans une situation de péché. Il faut absolument considérer cet aspect parce que c'est l'une des clés d'interprétation du dogme du péché originel. Il y a une différence à faire entre l'acte de péché et puis l'état de péché, la situation de péché. Alors, étant donné cette petite phrase que nous venons d'expliquer, saint Paul continue, et c'est surtout cette continuation du texte qui, en définitive, est importante pour le dogme du péché originel. Vous voyez, la suite, à partir du verset 13, donc. « Car jusqu'à la loi, il y avait du péché dans le monde. Mais le péché n'est pas imputé quand il n'y a pas de loi. Cependant, la mort a régné d'Adam à Moïse, même sur ceux qui n'avaient point péché d'une transgression semblable à celle d'Adam, figure de celui qui devait venir. » Mais il n'en va pas du don comme de la faute. Et c'est là que nous allons souligner les mots importants dans le texte de saint Paul. Il n'en va pas du don comme de la faute. Saint Paul va mettre en parallèle le don du salut et puis la faute commise qui mérite ce don. Au Felix culpa. Voyez la suite. Si, par la faute d'un seul, la multitude est morte. Vous voyez, opposition déjà entre un seul et la multitude. Combien plus la grâce de Dieu et le don conféré par la grâce d'un seul homme, Jésus-Christ, se sont-ils répandus à profusion sur la multitude. De nouveau, opposition entre un seul et la multitude. Et il n'en va pas du don comme des conséquences du péché d'un seul. Le jugement venant après un seul péché aboutit à une condamnation. L'œuvre de grâce, à la suite d'un grand nombre de fautes, aboutit à une justification. Si en effet, par la faute d'un seul, la mort a régné du fait de ce seul homme, combien plus ceux qui reçoivent avec profusion la grâce et le don de la justice régneront-ils dans la vie par le seul Jésus-Christ. Ainsi donc, comme la faute d'un seul a entraîné sur tous les hommes une condamnation, de même l'œuvre de justice d'un seul procure à tous une justification qui donne la vie. Comme en effet par la désobéissance d'un seul homme, la multitude a été constituée pécheresse, ainsi par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle constituée juste. C'est impressionnant, hein? Le nombre de fois où saint Paul utilise ce mot de un seul, qu'il emploie avec des propositions différentes. Mais verset 16, verset 17, verset 18, etc., verset 19. C'est toujours le même mot qui revient, un seul. Et c'est toujours le même mot qui revient dans le sens de quoi qu'il en soit, la traduction qu'on choisit du reste. Pour saint Paul, le péché est entré dans le monde par un seul pécheur. C'est obvié dans le texte, et l'allusion à Adam est évidente. Son nom est prononcé, mais en passant, c'est bien pour saint Paul le péché qui est entré dans le monde à partir de son origine. Alors il s'agira de donner son sens précis à ce mot péché. Le premier péché, comme il dit, le péché originel. Et ce n'est pas seulement la conséquence du péché, la mort, qui a passé dans tous les hommes. Parce que vous voyez, le péché est passé aussi. Fait que tous ont péché. L'opposition entre un seul et puis la multitude qui vaut d'une part pour le salut et d'autre part pour la faute, elle est pour saint Paul, semble-t-il, explicite, l'opposition. Et vous voyez cette insistance sur cette opposition. Sans doute, ce qu'il veut enseigner avant tout, c'est le thème central de toute la lettre aux Romains, est exprimé dans le mot qui commande tout le passage, c'est la réconciliation obtenue par Jésus-Christ. Le salut, la justification, comme il le dit si souvent. Et c'est pour magnifier l'œuvre du Christ qu'il oppose la multitude des hommes sauvés et puis cet homme unique qui est le seul sauveur de tous. C'est là-dessus qu'il veut insister. Mais cette œuvre de salut, de réconciliation, répond à l'œuvre de mort, de haine, qui, elle aussi, pour saint Paul, à partir d'un seul, a retenti sur tous. Et cette antithèse est si fortement accentuée qu'il est impossible d'y voir, comme l'ont fait certains exégètes, une simple figure de rhétorique. C'est absolument impossible de voir là simplement un jeu rhétorique de saint Paul. Saint Paul y exprime ce qu'il pense être la vérité en ce qui concerne l'histoire de notre salut. Et ce que je vous dis là doit vous paraître tellement étrange, puisqu'il y a des années peut-être que vous n'avez jamais entendu parler du péché originel. Et c'est un os. Ça fait partie justement d'une des vérités de la foi catholique qui sont les plus absentes, mais quasiment universellement. Je connais des catéchistes, des prêtres, des évêques qui se plaisent vraiment à ne plus enseigner le dogme du péché originel. J'ai fait une fois une session, je ne vous dis pas où, dans laquelle il y avait comme assistant un évêque qui était à la retraite, et ensuite j'ai voyagé avec cet évêque, et sérieusement, il m'a pris à part et il m'a dit, mais sérieusement, vous professez le péché originel. Non, mais on professe la doctrine du péché originel.
Pourquoi?
Eh bien, il faut lire Luther.
D'accord.
Il faut lire Luther.
Qu'est-ce que c'est la question? Pourquoi on professe?
Oui, ben oui. Et Kant. mal radical de Kant. On dirait un petit mot là-dessus. Pour saint Paul, il n'y a pas de doute. C'est en réalité qu'il y a eu à l'origine, et l'origine non seulement de la mort, mais du péché, il y a eu un seul homme. Il dit plus précisément au verset 16, du moins dans certains textes, dans certains manuscrits, un seul péché, amartématos. Ce qui est traduit ici par le péché d'un seul, les conséquences d'un seul péché. C'est donc un seul pécheur ou un seul péché qui a réalisé l'entrée du péché dans le monde. C'est-à-dire, équivalemment, un péché qui est à l'origine d'une situation de péché pour tous les hommes. Et il s'agit bien, dans la pensée de saint Paul, d'un péché pesant sur tous les hommes. Saint Paul précise simplement que depuis Adam jusqu'à Moïse, ce péché n'était pas imputé, parce qu'il n'y avait pas de loi. Il ne s'agit donc pas, vous le voyez, d'un péché personnel dont chacun se trouverait responsable. Il n'est pas imputé, ce péché, parce qu'il n'est pas une responsabilité personnelle. Mais entre le péché personnel, disons entre l'acte de péché commis par le seul Adam et le salut qui libère du péché, il y a place pour ce qu'on peut appeler une situation de péché, un état de péché. Status, un état, une situation, c'est le même mot. Hein? La loi de Moïse, la loi de Pentateuch. Ouais. Et encore une fois, pour mieux le comprendre, il ne faut pas oublier que pour saint Paul, comme pour toute la Bible, le péché essentiellement, c'est le libre refus de Dieu. C'est la rupture de l'alliance d'amour avec Dieu. Or, cette rupture est consommée par tous les hommes dès lors que le péché, le premier, a péché. C'est ça qui est fantastique. La rupture de tous les hommes avec Dieu, de cette alliance, est consommée du fait que le premier péché affecte tous les hommes. Nous sommes dans un état de péché dont nous avons besoin d'être sauvés. Et on voit sur quel point précis porte la comparaison faite par saint Paul entre Jésus-Christ et Adam. L'antithèse est affirmée entre le Sauveur d'une part, et puis le pécheur d'autre part. Un petit peu le mystère prodigieux qui se dessine ici.
il y a une influence d'un seul homme sur la multitude des hommes, lié à un état de péché qui affecte la multitude, tous les hommes. Et ici, il y a l'influence de la justice d'un seul sur la multitude aussi. Mais dans un ton de grâce. Et non plus pour une conséquence d'ordre naturel. Un ton de grâce. Un ton parfaitement gratuit, absolument gratuit, qui est donné par le Christ à l'humanité tout entière. Tandis qu'ici, vous avez une conséquence d'ordre naturel.
Donc la grâce est surnaturelle, un ton surnaturel.
C'est la même multitude.
Oui, c'est la même multitude. Oui. Elles sont opposées dans la mesure où elles représentent deux états opposés. Parce que la multitude pécheresse, dans une situation de péché, elle a besoin vraiment d'être sauvée. Non, je verrai un petit peu dans la démonstration, puis ça va se préciser petit à petit.
D'accord.
Donc l'antithèse entre le sauveur et puis le pécheur, mais l'un et l'autre ont ceci de commun, que chacun est premier dans son ordre.
Et pour le seul, à l'origine, premier dans son ordre. Dans son ordre, c'est très important, évidemment, ici un ordre surnaturel, et premier dans son ordre, à l'origine. On dira aussi principe. Il y a un seul acte, un seul homme, un seul acte, qui est à l'origine d'un état, qui affecte la multitude. Donc ces deux sont opposés.
Chacun des deux est premier dans son ordre. Et c'est la base de toute la théologie de saint Thomas sur le péché originel. Chacun est premier dans son ordre. Adam est le premier pécheur. Jésus est le premier juste. Et l'un et l'autre sont principes, sont au départ, sont à l'origine. L'un est à l'origine du péché. L'autre est à l'origine du salut. Et enfin, pour éclairer encore ce passage de la lettre aux Romains, on doit noter que ce parallèle, qui a vraiment impressionné saint Paul entre Adam et le Christ, se retrouve dans la première aux Corinthiens, chapitre 15, versets 21, 45. Cette lettre aux Corinthiens a été écrite peu avant la lettre aux Romains, et saint Paul y exprime déjà ce qu'il développera pour les Romains. Il dit: la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. De même, en effet, que tous meurent en Adam, tous aussi revivront dans le Christ. Et un peu plus loin, il oppose le premier homme, Adam, et le dernier Adam. Le dernier Adam étant, bien entendu, le premier, les prémices, comme il dit, celui qui est en tête, le principe, le Christ. Alors, un détail important à souligner, c'est que quand il parle de mort, saint Paul évoque le plus souvent dans ses lettres et dans la perspective de l'Ancien Testament, à la fois la mort visible, ce que nous appelons le décès, ce qui, dans la perspective de la philosophie grecque, c'est la mort visible, la séparation de l'âme et du corps, la corruption, la décomposition. Donc, Paul évoque cet aspect, la mort visible, mais d'autre part aussi la mort spirituelle, c'est-à-dire la rupture de l'alliance, la rupture de l'amitié divine, le péché entraînant à la fois l'une et l'autre, la mort visible et puis la mort spirituelle. Alors sur ce décor, pour ainsi dire, va se déployer alors la surprise, l'étonnante surprise de notre salut. Qu'est-ce que c'est qu'être sauvé? Qu'est-ce qui se passe dans l'âme de Jésus? Que va-t-il faire? Pourquoi va-t-il faire cela? Est-ce que l'obéissance à Dieu a une telle importance? Dieu veut-il voir resplendir l'obéissance à Dieu dans le cœur de chaque homme? L'obéissance à Dieu a-t-elle un tel prix pour que Dieu nous donne son Fils? Pour que nous soyons sauvés par une personne divine? Est-ce que la restauration de l'obéissance dans notre cœur, notre justice, notre accord avec Dieu, l'accord de notre volonté humaine avec Dieu, c'est ça la justice. Hein? Est-ce que notre justice est aux yeux de Dieu tellement importante que nous ayons eu besoin vraiment d'un Dieu pour la restaurer, d'un Dieu homme? Auquel cas, nous pouvons voir dans le Christ le prix que nous avons aux yeux de Dieu. Sinon, nous ne pouvons pas savoir. Qu'est-ce que va faire Jésus? Pourquoi va-t-il faire cela? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ce sauvetage. C'est un sauvetage qu'il va faire. C'est un sauvetage. Imaginez si Jésus, on ne peut pas imaginer d'ailleurs, mais si Jésus ce n'avait pas été sauvé. Mais vous voyez que le dogme du péché originel est tellement important. Que dans la première encyclique qu'il a écrite en mars 1979, Jean-Paul II va se faire justement le héros de ce dogme. C'est l'un des aspects les plus merveilleux de la théologie de Jean-Paul II. Voyez numéro 1, je vous ai mis plusieurs paragraphes de Redemptor Hominis parce que c'est étonnant de voir comment Jean-Paul II a tenu contre vents et marées, vraiment. Il savait bien que partout dans toutes les universités au monde, on n'enseignait plus cela. Nous sommes, nous aussi, d'une certaine façon, dans le temps d'un nouvel avant. La préparation à l'an 2000 pour Jean-Paul II, ça a toujours été comme un temps marial qui nous prépare à l'anniversaire de la naissance du Christ, l'an 2000. Donc un temps de nouvel avant dans un temps d'attente. Après avoir maintes reprises et sous maintes formes parlé jadis au Père par les prophètes, Dieu, en ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Vous avez toutes les notes en bas de page au verso. Par le Fils, Verbe, qui s'est fait homme et est né de la Vierge Marie. Regardez bien, c'est au tout début, de Redemptor Hominis. Dans l'acte même de cette rédemption, l'histoire de l'homme a atteint son sommet dans le dessein d'amour de Dieu. Dieu est entré dans l'histoire de l'humanité et comme homme, il est devenu son sujet, l'un des milliards tout en étant unique. Par l'incarnation, Dieu a donné à la vie humaine la dimension qu'il voulait donner à l'homme dès son premier instant. Et il l'a donnée d'une manière définitive, de la façon dont lui seul est capable, selon son amour éternel et sa miséricorde, avec toute la liberté divine. Il l'a fait aussi avec cette munificence qui, devant le péché originel et toute l'histoire des péchés de l'humanité, devant les erreurs de l'intelligence et de la volonté et du cœur de l'homme, nous permet de répéter avec admiration les paroles de la liturgie « Heureuse faute qui nous valut un tel et un si grand rédempteur ». Oui, numéro 8. Bon, on va voir par le détail, tout de suite après, pendant quelques minutes au moins, en quoi a consisté la rédemption. Mais voyez comment Jean-Paul II, et c'est pas, évidemment, c'est pas un accident.
Quel était le contexte, vous avez dit, un petit mot, mais...
Madame de Romilis ?
Oui.
Le contexte de la première encyclique ?
Oui, c'est ça. Tu ne vois pas trop le contexte.
Eh bien... Le contexte de Redemptor Humilis, c'est le texte inaugural du pontificat de Jean-Paul II. C'est le premier grand texte.
Est-ce que c'était lié à la société qui était...
Ah oui, oui, mais ça, il faudrait que je fasse un cours entier sur Redemptor Humilis. Mais, oui, c'était une première analyse de la situation du monde actuel, en 79. Avec son regard d'aigle, ce qu'il voyait. Ah oui, oui, c'est un très grand document. C'est le document, l'encyclique programmatique. C'est vraiment à partir de cette encyclique qu'il va développer toutes les autres. Vous voyez, numéro 8. Le rédempteur du monde. En lui s'est révélé, d'une manière nouvelle et plus admirable, la vérité fondamentale sur la création, que le livre de la Genèse atteste quand il répète à plusieurs reprises « Dieu vit que cela était bon ». Le bien prend sa source dans la sagesse et dans l'amour. En Jésus-Christ, le monde visible, créé par Dieu pour l'homme, ce monde qui, lorsque le péché y est entré, a été soumis à la caducité, retrouve de nouveau son lien originaire avec la source divine de la sagesse et de l'amour. En effet, puis là il cite Gaudium et Spes, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. De même que dans l'homme Adam, ce lien avait été brisé, voyez, dans l'homme Christ, il a été de nouveau renoué. Peut-être ne sommes-nous pas convaincus, nous, hommes du XXe siècle, par les paroles de Paul, prononcées avec une éloquente, une concentrée sur la création qui gémit dans les douleurs de l'enfantement jusqu'à maintenant, et qui attendent avec impatience la révélation des fils de Dieu sur la création qui a été soumise à la caducité. Le progrès immense, jusqu'ici inconnu, qui s'est manifesté particulièrement au cours de notre siècle, dans le domaine de la mainmise de l'homme sur le monde, ne révèle-t-il pas lui-même, et à un degré jamais connu, cette soumission multiforme à la caducité? Le monde de l'époque des vols cosmiques, etc. Et alors, paragraphe suivant, le Concile Vatican II, dans son analyse pénétrante du monde contemporain, a atteint ce point le plus important du monde visible, à savoir l'homme, en descendant comme le Christ au plus profond des consciences humaines, en parvenant jusqu'au mystère intérieur de l'homme qui s'exprime dans le langage biblique, et même non biblique, par le mot « cœur ». Le Christ, rédempteur du monde, est celui qui a pénétré d'une manière unique et absolument singulière dans le mystère de l'homme et qui est entré dans son cœur. C'est donc à juste titre que le Concile Vatican II enseigne « En réalité, le mystère de l'homme ne s'éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe incarné. Adam, le premier homme, était la figure de celui qui devait venir, le Christ. Nouvel Adam, le Christ, dans la révélation même du Père, du mystère du Père et de son amour, manifeste pleinement l'homme à lui-même et lui découvre la sublimité de sa vocation. Incroyable. Et encore, image du Dieu invisible, il est l'homme parfait qui a restauré dans la descendance d'Adam la ressemblance divine altérée dès le premier péché. Voyez. Numéro 9, sixième ligne. Le Christ a également correspondu pleinement à cette paternité de Dieu et à cet amour, alors que l'homme a rejeté cet amour en rompant la première alliance et toutes celles que Dieu, par la suite, a souvent offertes aux hommes. Vous voyez donc les textes fondamentaux de Jean-Paul II, et encore une fois, le rédempteur de l'homme. Donc c'est le titre de l'encyclique, et toute l'encyclique repose sur... justement, le mystère du premier péché, mais de l'œuvre de la rédemption. Alors oui, la réponse à votre question, c'est que justement, c'est le traité de la rédemption. Et Jean-Paul II joue de son autorité suprême pour manifester de nouveau le traité, la vérité fondamentale de la rédemption, qui est relative au péché originel. Alors, maintenant, je voudrais maintenant entrer plus explicitement dans l'œuvre de Jésus. Et nous allons pour cela suivre le serviteur souffrant en Isaïe et le commentaire que le père Schenker dominicain nous a donné et que je vais vous partager. Alors, vous n'avez pas la traduction qu'il donne, je vais vous la lire tout doucement. C'est l'heure, hein?
Non, encore 1h15.
Oui, mais on va faire une deuxième pause. Alors, je vous lis le texte que nous allons principalement étudier. Donc, il est dans votre Bible, chapitre 53, versets 4 et suivants. Et versets 10 à 12 ensuite. Donc nous allons éclairer ce mystère de la rédemption du Christ par donc, Isaïe 53. En fait, ce sont nos souffrances qu'il a portées, nos douleurs qu'il a supportées, et nous l'estimions touché, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était déshonoré à cause de nos péchés, broyé à cause de nos fautes. La sanction, gage de paix pour nous, était sur lui, et dans ses plaies se trouvait notre guérison. Nous tous, comme du petit bétail, nous étions errants, nous nous tournions chacun vers son chemin, et le Seigneur a fait retomber sur lui la perversité de nous tous. Verset 7. Brutalisé, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche, comme un agneau traîné à l'abattoir, comme une brebis devant ceux qui la tondent, elle est muette. Lui n'ouvre pas la bouche. Maintenant, Isaïe 53, versets 10 à 12. Le Seigneur a voulu verset 10, c'est encore la traduction du père Schenker. Le Seigneur a agréé son broyé, le broyé par la souffrance. Le Seigneur a agréé son broyé qu'il avait rendu malade. Si son âme s'offre en sacrifice d'expiation au serviteur, il verra une descendance, il prolongera ses jours, et la volonté du Seigneur aboutira. Émergeant de ce qu'il a souffert, il verra la lumière et s'en rassasira. Sitôt connu, juste, il dispensera la justice, lui, mon serviteur, au profit des multitudes, du fait que lui-même supporte leur perversité. Verset 12. Dès lors, je lui taillerai sa part dans les multitudes, et c'est avec des myriades qu'il constituera sa part de butin, puisqu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et qu'avec les pécheurs il s'est laissé recenser, alors qu'il a supporté, lui, les fautes des multitudes, tandis que pour les pécheurs, il s'interposait. Voilà. Ce texte que nous lisons le vendredi saint, au cours de la célébration de la croix, pourquoi l'Église y a lu pratiquement la meilleure explication de la rédemption. Qu'est-ce qu'il y a dans ce texte qui nous met sur la piste pour comprendre ce qui se passe dans l'âme de Jésus et ce qui va se réaliser, ce qu'on appelle le salut. Voilà, nous nous reposons.